Bleu ciel, jaune citron, rose presque fuchsia. Des couleurs qui attirent l'œil sur ce dessin au contour bleu marine. On voit six personnages, tout en rondeur, tout en douceur, que des lignes courbes pour détourer, aucune arête. Un peu comme leurs regards, absents et souriants, en fait ce sont des poupées russes creuses, normalement emboîtées, ici défaites. Six poupées pour trois générations, posées les unes derrière les autres dans cette immensité du bleu, les grands-parents à l'arrière, puis les parents et les enfants devant. Tout semble calme, figé, attendu. C'est au premier plan que ça se corse. Des objets moins lisses, avec des arêtes, eux. À gauche, une usine et une liasse de billets devant le petit garçon. Quelques pièces et une poussette vers la petite fille. Effectivement, ça se corse. Ce dessin, c'est la couverture de la bande dessinée Le genre du capital, enquêtée sur les inégalités dans la famille de Jeanne Puchol. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, dans le cadre du festival À l'école de l'Anthropocène. Sciences dessinées, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et la production du savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Puchol, dessinatrice et autrice de bande dessinée. Bonjour Jeanne.
Bonjour, bonjour à tous et toutes.
Jeanne Puchol, vous avez publié l'année dernière dans la collection La Découverte d'Elcourt une adaptation en bande dessinée de l'ouvrage Le genre du capital de Céline Bessière et Sybille Colac, qui est issue d'une enquête sociologique menée par ces deux autrices sur les inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes. Leur ouvrage et aussi votre bande dessinée creusent une énigme. Ils cherchent à comprendre pourquoi, alors qu'on a en France un droit de la succession qui est égalitaire, pourquoi ce droit produit des inégalités, pourquoi les hommes et les femmes n'héritent pas des mêmes choses au détriment des femmes, et pourquoi aussi, au moment des séparations conjugales, les femmes s'appauvrissent plus que les hommes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine de ce projet d'adaptation ? Qu'est-ce qui vous a plu ?
Alors l'origine, en fait, c'est un des deux éditeurs, parce que c'est une coédition entre les éditions La Découverte et les éditions Delcourt. C'est mon éditeur Delcourt, un éditeur de bande dessinée, qui m'appelle un jour pour m'informer du projet de cette collection, d'une nouvelle collection, donc proposant des titres de sciences humaines adaptés en bande dessinée. Et mon interlocuteur, qui était donc le directeur de collection avec qui j'avais déjà travaillé précédemment, me parle de ce livre. Voilà, ils ont déjà choisi ce titre un peu en amont et m'invitent à aller lire les premières pages sur le site de La Découverte. Et j'avoue que ces premières pages m'enthousiasment, me séduisent énormément. Bon, évidemment, mon éditeur me connaissant se doutait que le propos allait m'intéresser, allait me parler. Mais bon, au-delà d'un intérêt, on va dire, féministe pour ce type de questions, il y a effectivement ce que j'ai trouvé à la lecture des 40 ou 50 premières pages qui sont en accès libre sur le site de La Découverte. C'est-à-dire à la fois une qualité d'écriture de la part de ces deux sociologues et une réflexion, enfin le résultat d'enquêtes qu'elles ont menées d'abord séparément puis conjointement sur plus de 20 ans et qui concourent toutes à cette conclusion, à la conclusion que vous avez citée à l'instant.
Donc vous le dites, hein, ce projet c'est un projet éditorial de cette collection croisée La Découverte d'Elcourt, donc une collection de bandes dessinées de sciences humaines. Et derrière cette collection, il y a l'idée, en tout cas c'est comme ça que c'est formulé sur leur site, l'idée que la bande dessinée possède un pouvoir de séduction et une clarté et qu'elle peut de ce fait contribuer au projet de connaissance des sciences sociales. Qu'en pensez-vous ?
Alors, séduction, oui, mais pas que. Je pense que le dessin et l'hybride texte et dessin, puisqu'en bande dessinée, il y a le texte, le dessin et l'hybride texte et dessin, peuvent être le vecteur de signification, de sens, plus immédiat, finalement, plus rapide. Alors, sans doute aussi peut-être moins subtil, mais qu'un texte de type académique. Et en tout cas, je sais que de l'aveu même de mes deux sociologues, elles ont trouvé que la bande dessinée apportait un plus, le fait qu'on les voit au travail. Parce que souvent, dans les ouvrages de sociologie, les sociologues se mettent en retrait par rapport à ce dont ils parlent. Et que là, ben, moi, à l'image, je les ai montrés au travail, tout simplement, dans le cadre de leur enquête, dans ce qu'elles font. Et ça, pour elles, ça a été une belle surprise et la reconnaissance de leur métier aussi, un métier qui n'est pas très connu, dont on ne sait pas forcément en quoi il consiste. Et de se rendre compte que ben, être sociologue, ce n'est pas juste être chez soi devant un écran d'ordinateur à éplucher des statistiques de l'INSEE, ce qu'elles ont fait aussi. Hein. Mais c'est beaucoup être sur le terrain, aller enquêter auprès des gens, aller au contact, aller écouter, interviewer des KIDAM.
Et est-ce que vous pensez que la bande dessinée participe aussi à ouvrir l'audience de la science et de la sociologie ? Quel était le lectorat en fait, qui était visé derrière cette bande dessinée ?
En fait, je crois que les éditeurs, puisque là, il y a vraiment deux maisons d'édition au catalogue et au public différent, c'est vraiment de créer des passerelles dans les deux sens. Le sens le plus immédiat, c'est en effet d'attirer un lectorat qui sera peut-être un petit peu intimidé par un essai de 300 pages, qui va se dire « Ah, c'est pas pour moi, c'est peut-être un peu compliqué, ou j'ai pas trop le temps, etc. etc. » Donc, ce public-là ira peut-être plus facilement vers une bande dessinée, en se disant que ça va lui prendre moins de temps à lire, que ce sera plus facile. Et ce que j'espère, c'est qu'en fait, la bande dessinée lui donnera envie de lire l'essai. Et à l'inverse, pour des gens qui seraient qui iraient plus facilement ou plus directement vers un essai, les amener à lire de la bande dessinée. Donc vraiment, le rêve des deux maisons d'édition, c'est de croiser leur public et de les mélanger dans un espèce d'aller-retour. Et ça, ce serait l'idéal, effectivement, parce que la bande dessinée de ces 20 dernières années n'a cessé d'élargir son public et finalement, par rapport à l'époque où moi j'ai commencé à publier, c'est-à-dire il y a 40 ans, j'ai bien vu combien le public avait changé. D'abord, il y a beaucoup plus de femmes dans ce public, alors que quand j'étais débutante, il y avait surtout des hommes. Il s'est diversifié en termes d'âge et de centre d'intérêt, tout simplement. La bande dessinée couvre des champs beaucoup plus larges qu'elle ne couvrait il y a une quarantaine d'années.
Donc là, on parle de la question de la réception aussi oui. De cet ouvrage. Et je crois que vous avez beaucoup diffusé aussi, beaucoup parlé de ce travail. Donc vous êtes allé à la rencontre aussi du lectorat. Est-ce que vous pouvez avoir, une vérité statistique sur qui l'a lu et si cette rencontre des publics s'est faite. Mais en tout cas, vous, quel pouls vous avez pris sur ces lecteurs et lectrices que vous avez rencontrés?
Bien, en tout cas, dans le cadre de ces rencontres, moi, j'ai rencontré des publics extrêmement variés. Hein. Ça peut aller de publics de type scolaire. Cet album, enfin, l'adaptation en bande dessinée a reçu un prix de la bande dessinée économique qui lui a ouvert tout grand les portes des CDI et qui a fait que les profs de sciences économiques et sociales de lycée s'en sont saisis. Donc, par exemple, au mois d'avril, j'ai des rencontres avec des terminales des rencontres avec des lycéens et lycéennes. J'ai rencontré des publics dans des médiathèques. Donc là, c'est les gens qui viennent en médiathèque. Ça peut être très, très varié. C'est les gens qui fréquentent la médiathèque en question. J'ai été invité par une association qui vient au secours de femmes victimes de violences. Ici, j'interviens encore dans un autre cadre. Les gens qui viennent à la rencontre n'ont pas forcément lu le livre. J'espère que ça leur donne l'envie de le lire. C'est très, très varié. Et je sais que ce livre, puisqu'l'album a aussi reçu une bande dessinée d'une association plus inattendue, l'association Parité Assurance, qui regroupe des femmes cadres, dirigeantes et membres de conseils d'administration dans les métiers de l'assurance. Et en fait, quand elles ont lu l'essai, elles ont donné un prix à l'essai, et puis 3 ans après, elles donnent un prix à la bande dessinée, tellement elles ont été bluffées, convaincues par le propos, alors même qu'elles sont elles-mêmes dans des places de direction où a priori elles sont plutôt au fait de ces questions-là, et bien elles se sont rendues compte que pas du tout, qu'il y avait certaines de ces inégalités qui sont pointées dans le livre, auxquelles elles n'avaient jamais prêté attention, enfin, ou pris le temps de se pencher dessus. Donc, c'est vous dire la diversité des publics qui peuvent être intéressés par le livre.
Effectivement. Donc l'essai de Céline Bessières et Sybille Golac est, bon, comme souvent dans ce type d'ouvrage, un ouvrage dense de plus de 300 pages et tout ce qu'il y a de plus académique, avec certes, vous l'avez dit, hein, une qualité d'écriture, des exemples, du terrain, mais il y a aussi des concepts de la revue de littérature, etc. Concrètement, comment est-ce qu'on vous êtes prise pour adapter cette matière? Comment on passe d'un essai académique comme ça, de plusieurs centaines de pages, à une bande dessinée qui déploie non seulement une autre écriture, mais qui est aussi dans un espace de pagination plus étroit?
Plus étroit, oui. Alors en fait, mon fil conducteur, ça a été précisément les cas concrets, c'est-à-dire les enquêtes de terrain, tout simplement parce que dans l'essai, pour certaines, ça, c'était comme déjà des petites scénettes. Le mot scénette n'est peut-être pas adapté parce que c'est souvent des choses absolument
dramatiques,
tragiques, vraiment des situations pathétiques, mais qui étaient beaucoup citées sous forme de dialogue. Donc, à la première lecture que j'ai faite de l'essai, je me suis dit, bon, il y a déjà en fait des scènes qu'il suffit de représenter, d'incarner et d'en faire des passages de bande dessinée. Donc ça a été ça le point de départ. Alors évidemment j'ai été obligé de réduire le nombre de ces scènes. Et je crois qu'il y a une trentaine d'exemples comme ça de cas concrets, donc soit des histoires de séparation conjugale, soit des histoires d'héritage. Une trentaine d'exemples qui sont cités et que j'ai ramené à une douzaine d'exemples. Alors quand je dis que j'ai ramené, en fait, au fur et à mesure de discussions avec les deux sociologues pour qu'on soit bien d'accord. Mais en fait, oui, on avait fait notre liste chacune de notre côté et on est tombé à peu près sur les mêmes cas de figure les plus parlants. Donc ça, c'était un peu l'épine dorsale. Après, ce que je souhaitais pour éviter l'effet collection, un cas, plus un cas, plus un cas, la malheureuse famille Pilon, puis la malheureuse famille Renoir, puis le malheureux couple, machin chose, il fallait trouver des scènes de transition. Et là, pour les scènes de transition, qui sont aussi des scènes d'explication, des scènes qui permettent d'expliciter certaines choses, d'expliquer peut-être à un public non spécialisé certaines données de droit des familles, qu'est-ce que c'est une donation partage, comment ça se passe chez un notaire, qu'est-ce que c'est les droits de notaire, qu'est-ce que c'est, voilà, pourquoi un avocat peut intervenir à tel ou tel moment. Donc c'était des choses, des éléments d'information de source et de nature assez diverses. Et pour ça, j'ai recouru à deux procédés différents. Des scènes où je nous représente mes deux co-autrices, sociologues et moi-même, et où je sers un peu de candide et je leur pose des questions pour qu'elles expliquent des choses. Donc ça permet de traiter sous forme de dialogue. Et des scènes où là, ce sont des chats qui commentent et qui devisent plus ou moins gaiement sur tous ces cas de figure, tout simplement parce qu'un des chats n'est autre que le chat d'une des deux sociologues. Mais c'est authentique, elle a un chat. Hein. Sybille Golac a un chat dont j'ai fait la connaissance très tôt dans l'élaboration du livre et que j'ai donc décidé d'intégrer dans mon récit et d'accompagner d'une foule de chats à qui il explique les choses que les uns et les autres vivent auprès de leurs humains et humaines respectifs. Donc voilà en gros les trois éléments structurants du livre. Mais c'est vrai que l'épine dorsale, c'est quand même c'est le terrain, en fait. C'est le terrain, c'est ce qu'elles ont vu et ce dont elles témoignent, en fait, tout au long du livre.
Donc vous utilisez un mot, c'est authentique,
oui.
Un mot qui est revenu aussi plusieurs fois parce que vous avez fait une présentation beaucoup plus détaillée en début d'après-midi sur votre processus de travail, en fait, et cette question de l'authenticité et du rapport peut-être au vrai, au réel, est revenu à plusieurs reprises dans votre présentation. Est-ce que c'est un enjeu, est-ce qu'il y a une tension, en fait, entre l'authentique et la fiction, parce qu'il y a effectivement des chats qui parlent dans cette bande dessinée.
Oui, il y a une tension. D'ailleurs, cet aspect-là, les chats, bon, dans l'ensemble, ça a plutôt été plébiscité, mais il y a certains chroniqueurs qui n'ont pas compris du tout et qui ont été vraiment même assez très, très, très sceptiques par rapport à cette solution-là. Après, ce souci d'authenticité ou de rapport au réel, plutôt, est beaucoup lié à mon style de dessin. C'est-à-dire, moi, je suis une dessinatrice réaliste. C'est assez rare, en fait, dans le domaine de la bande dessinée, de vulgarisation, qu'on fasse appel à ce type de dessin. Et pour moi, ça exige pratiquement cette idée d'authenticité, enfin, ou de relative fidélité à la réalité. Lors de ma présentation, j'ai cité Marion Montaigne, qui est une consoeur que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie énormément le travail. C'est clair que les solutions qui sont possibles pour Marion Montaigne, vu son type de graphisme, ne le sont pas pour moi. Et vice-versa. Parce qu'on a des graphismes, voilà, elle, elle a un graphisme extrêmement jeté, qui est très drôle. On voit un dessin de Montaigne, on éclate de rire tout de suite, même sans lire de quoi il retourne. Moi, mon dessin ne fait pas éclater de rire, il a d'autres qualités, je l'espère en tout cas. Mais voilà. Donc c'est beaucoup lié à mon type de dessin, en fait. En plus, je suis de nature, et c'est sans doute pour ça que j'ai opté pour un dessin réaliste, très soucieuse du détail, très soucieuse du réel, de l'effet de réel. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, en fait.
Mais pour autant, vous déployez quand même dans cet ouvrage des registres graphiques qui sont différents, qui reprennent, en fait, enfin, pour traiter ces trois registres narratifs, donc vous l'avez dit, les scénettes, vos dialogues avec les sociologues et les scènes de chat, il y a un traitement différencié au niveau du dessin de ces différents registres.
Là, il s'agit de contraintes formelles, en fait. Alors, ça peut sembler un petit peu bizarre qu'on se mette des contraintes, nous les artistes, mais en fait la contrainte a un double avantage. La contrainte, elle permet de restreindre les choix qu'il y a dans l'absolue liberté. Moi, je suis en face d'une page blanche. Si je me mets pas, déjà la page blanche, elle a un format, donc la première contrainte, c'est le format. Mais devant une page blanche, si je ne me mets aucune contrainte, je risque d'être bloqué par la surabondance de possibilités. Si j'introduis une contrainte formelle, bon, c'est peut-être un petit peu compliqué d'en parler à la radio, mais c'est des contraintes formelles de type d'organisation de la page. Avec les chats, il y a des cases délimitées. Dans d'autres, les scénettes sont traitées avec des dessins à fond perdu. Bon. Donc la contrainte formelle, elle élimine un certain nombre de possibilités au départ. Et ensuite, comme c'est une contrainte, elle vous oblige à trouver des solutions. Donc ça a vraiment un double avantage, en fait. C'est un peu le double effet. On réduit le doute au départ, et après, c'est un stimulant, en fait, parce qu'une fois qu'on a sa contrainte, on se dit, ah, ben, mince, je ne peux pas faire autrement, parce que là, je suis dans cette contrainte-là, donc ça aide à trouver des solutions.
C'est un ressort créatif.
Oui, absolument. Oui.
Vous avez parlé au tout début du choix, et notamment du choix dans les études de cas que vous avez montré. Vous êtes passé de 30 à 12, et vous avez parlé de vos co-autrices, Céline Bessière et Sybille Colac, qui sont créditées à vos côtés en tant qu'autrices de la bande dessinée. Comment s'est déroulée cette collaboration? Quel était votre rôle à chacune? Est-ce que c'était une coécriture? Parce que je crois pas que... Enfin, elles sont toutes les deux sociologues, mais elles ne sont pas scénaristes de bande dessinée, mais elles sont co-scénaristes de cette bande dessinée.
Alors, en effet, elles ne sont pas scénaristes de bande dessinée. Après, elles ont des qualités littéraires indéniables au vu de la qualité d'écriture de leur essai, hein, qui n'est pas seulement un ouvrage sociologique extrêmement informé et argumenté, mais aussi un livre extrêmement agréable à lire, donc très accessible, enfin, à mon avis. Donc, elles avaient d'emblée demandé le final cut, si je peux utiliser cette expression pour point de bande dessinée. Donc, voilà, la relecture finale et la modification jusqu'à la fin du texte. Après, ça a été vraiment un travail tout au long de la phase de conception, qui a quand même duré 6 mois, de phase de conception et d'écriture, un travail d'aller-retour entre elles et moi, où à chaque étape, je leur envoyais les étapes successives d'écriture. Et puis aussi au cours de réunions où on était là avec nos éditeurs respectifs et le directeur de collection, tous autour d'une table, à lire ensemble le storyboard, c'est-à-dire l'étape de l'esquisse dessinée, qui est vraiment ce qui ressemble le plus à ce que sera la page finale. Mais dès l'écriture, moi, je me souviens très bien que je faisais mon document Word, là, et qu'avant même de faire le découpage, je leur ai envoyé une continuité dialoguée, c'est-à-dire l'entièreté du texte, sans aucune indication de telle case, telle page, etc. Et pour validation et pour complément et autres. Après, bon, cette version-là, enfin, la toute première version du texte, je l'ai aussi écrite grâce à l'essai, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont des simples copier-coller de leur essai, hein, et qu'après on a retravaillé éventuellement pour le rendre plus clair ou pour faire que ça soit le plus explicite possible, pour aussi quand quand c'était un peu trop synthétisé ou trop abrégé, ben, donner les éléments supplémentaires qui étaient indispensables à la bonne compréhension. Donc oui, elles sont co-autrices de ce fait-là, même si elles n'ont pas travaillé sur l'adaptation proprement dite, dont je me considère comme la principale autrice. Après, pour ce qui est l'écriture, l'intervention, y compris sur les bulles de dialogue, oui, elles ont été là tout le long, quoi.
Et donc ce projet, la découverte d'Elcourt, c'est un projet de rencontre entre la sociologie et la bande dessinée. Vous l'avez vécu. En plus, c'est un des premiers ouvrages de cette collection. Ouais. Est-ce que ça a été un rendez-vous compliqué?
On va dire complexe, plutôt.
C'est bien, ça.
Compliqué et en même temps hyper, hyper stimulant et intéressant, parce que compliqué parce que oui, on vient de métiers complètement différents. Moi, même si j'avais déjà lu des ouvrages de sociologie, évidemment, je n'avais jamais rencontré de sociologue et je ne savais pas très bien en quoi consistait le métier de sociologue, quoi. Voilà, donc, et elle, de leur côté, venant d'un milieu universitaire, d'un tout autre type d'écriture, d'un tout autre type de rigueur scientifique. Alors, elles avaient eu une expérience en bande dessinée, puisque un autre ouvrage collectif au tribunal du couple avait fait l'objet d'une adaptation dans la collection Sociorama. Ce n'était pas une expérience dont elles gardaient un excellent souvenir. Donc, je pense qu'elles étaient à la fois très contentes de cette adaptation et un petit peu sur leur garde au départ, ce que je peux doublement comprendre. Donc, oui, il y a eu tout un travail d'adaptation, enfin de s'apprivoiser réciproquement et avec des appréhensions et des petites crispations de part et d'autre, hein, tout à fait normal dans ce genre de cas de figure quand on vient de métiers aussi différents. Et c'est aussi pour ça qu'on était accompagnés par nos éditeurs respectifs avec l'arbitre suprême qui était le directeur de collection. Quand il y avait vraiment un truc qui bloquait trop, c'était le directeur de collection qui emportait la décision, quoi, qui disait bon, on arrête tout, c'est comme ça, et on avance.
Est-ce que, on a tendance à penser souvent, depuis l'essai de sociologie, sa transformation en bande dessinée, je me suis posé aussi la question inverse. Est-ce que ce projet d'adaptation, vos propositions, vos libertés aussi, est-ce que ça a nourri quelque chose du côté des chercheurs, des chercheuses, des sociologues vis-à-vis de leur sujet? Est-ce que le passage au dessin a amené de nouvelles questions? Est-ce qu'il y a eu un retour au terrain, des éclairages inattendus?
Ça, je ne sais pas. L'avenir le dira peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont été absolument reconnaissante du fait que, comme je les représente dans l'album, ben on les voyait au travail, en fait. C'est-à-dire que je rendais visible quelque chose qui est totalement invisibilisé dans l'essai, enfin, et dans les textes. Je veux dire, à l'exception de certains sociologues qui parlent à partir de leur subjectivité, donc qui sont très présents, je pense à quelqu'un comme Héribon, enfin, il n'est pas le seul, hein, mais bon, des sociologues qui donc construisent toute leur pensée autour de leur propre expérience et à partir d'eux-mêmes, finalement. La plupart des sociologues se mettent en retrait de leur constat. Ils sont toujours présents parce qu'il n'y a pas de neutralité, je pense, dans ce domaine-là, comme dans aucun domaine. Mais ils ne se mettent pas en avant. Et d'autant plus là qu'elles sont deux. Donc, si vous voulez, dans l'essai, elles précisent de temps à autre que c'est l'une ou l'autre qui a suivi telle ou telle famille ou telle affaire. Mais elles ne sont pas présentes en tant que telles. Or là, dans la bande dessinée, et ne serait-ce parce que moi, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais je comprends pas, mais vous vous mettiez où pendant les rendez-vous? J'arrivais pas à comprendre comment elles avaient pu assister à des rendez-vous terribles parfois, chez des avocats, chez des notaires ou devant le juge, sans que ça dérange le justiciable, enfin sans que ça n'interroge personne. Et donc je leur ai fait préciser leur position. D'ailleurs, des fois, je me souviens très bien, Céline qui, sur une des premières scènes, qui m'avait dit, ah non, on était beaucoup plus près de la dame, on était assise derrière elle, mais on était plus près. Donc je pense aussi que pour beaucoup des témoins qui interviennent dans le livre, au bout d'un moment, la présence de ces sociologues ou de leurs étudiants ou étudiantes, ils l'oublient. Et dans certains cas même, quand c'est une jeune femme, ils pensent que c'est la stagiaire du greffier, quoi. Enfin, voilà, je pense que les gens arrivent dans ce genre de situation avec de tels soucis en tête qu'il voit une personne en plus, il ne se pose pas la question de qui est cette personne et à quoi elle sert, quoi.
Donc vous l'avez dit, vous avez un dessin réaliste, et pour ces scènes réelles, des cas en plus qui n'ont pas été fusionnés, à chaque fois c'est vraiment des cas précis qui sont abordés en tant que tels et présentés en tant que tels dans l'essai. Donc vous représentez ces personnes de manière réaliste. Comment vous avez abordé cette question de la représentation, sachant qu'en sociologie, l'écriture, elle est tendue par une exigence, notamment, qui est celle de l'anonymat.
Alors, en fait, justement, sur ces scènes, ça finit de répondre à une question précédente. Par exemple, là, pour ces scènes, moi, j'ai respecté à la virgule près le verbatim, c'est-à-dire ce qu'avaient dit les gens. Donc là, je n'invente rien, je n'écris pas un mot, je n'ajoute pas une virgule, je pars... De ce qui est communiqué par les sociologues. Après, pour la représentation des gens, même si au départ j'étais un peu réticente par rapport à cette idée parce que je pensais que ça allait me faire trop de matériaux, elles m'ont tout de suite proposé de me donner accès à leurs notes de terrain qui sont extrêmement détaillées, avec des descriptions, des lieux, des personnes, comment les gens sont habillés, etc. etc. Après, bon, à partir d'une description écrite, hein, vous pouvez faire 15 ou 20 ou 50 dessins différents. Donc, au final, ça ne ressemblait pas forcément à la vraie personne. En outre, même ces notes de terrain étaient complètement anonymisées. Hein. De toute façon, dans le livre, les noms sont changés, les lieux sont changés, enfin, tout ce qui pourrait permettre l'identification des personnes citées, que ce soit les professionnels du droit ou les personnes qui vont les voir, est totalement gommé. Donc, moi, quelque part, j'ai fait la même chose. Avec plutôt à l'idée de créer des types, pas des stéréotypes, mais un type, un personnage, un peu comme on crée un type au théâtre, quoi, dans le théâtre classique. J'ai essayé de mettre au point une sorte de portrait robot, en fait, de la pauvre petite dame qui arrive chez un avocat, une avocate, toute tremblante, en bafouillant au début, parce que son conjoint violent a été mis en EHPAD et qu'elle sait pas comment, et que l'EHPAD demande à ses enfants de payer et qu'elle ne sait pas comment faire, etc. Donc voilà, j'essaye de mettre au point une sorte de personnage type qui va endosser ce rôle-là. En fait. Évidemment, ce n'est pas un rôle, mais... donc c'est plutôt une question de ce type, en fait. C'est plutôt une question de... Oui, créer une sorte de portrait robot, en fait.
Quelles ont été vos inspirations dans ce projet?
Waouh.
Un peu large.
Un peu large, la question un peu large. Alors, en tout cas, en ce qui concerne l'aspect félin du projet, qui est peut-être le plus surprenant, l'histoire des... Pourquoi avoir ajouté des chats alors qu'il n'y en a évidemment absolument pas dans l'essai de départ? Idée qui a d'ailleurs un petit peu beaucoup troublé les deux sociologues au départ et qu'elles n'étaient pas du tout convaincues d'avoir recours à ça. C'était un petit peu une envie qui m'était venue de manière un peu comme ça arbitraire au moment où j'en étais encore au stade vraiment de la réflexion avant de commencer à travailler. Et je m'étais dit, tiens, c'est étonnant, dans toutes les... J'en avais lu quand même pas mal de bandes dessinées de ce type, hein, bandes dessinées du réel, de reportages, voilà. Et j'en avais lu d'autant plus quand j'ai été contacté pour faire le livre. Je me suis dit, c'est marrant, personne n'a jamais traité ce genre de bande dessinée en bande dessinée animalière. Alors que c'est quand même en bande dessinée très fréquent. Hein, et qu'on a pu utiliser de l'animalier aussi bien pour du comique que pour du policier, voire Black Sad, Canardo. Enfin voilà, le registre animalier en bande dessinée peut être utilisé de manière extrêmement large. Donc je m'étais mis ça dans un coin de la tête et c'est vrai que j'avais pensé plutôt à des chiens au départ parce que bon, les chiens c'est plus rigolo à dessiner, c'est plus facile, c'est plus expressif, il y a plus de sortes de chiens différents, etc. etc. Et puis il se trouve que par le plus grand des hasards, notre premier contact s'est fait par visioconférence parce qu'on était encore en fin de deuxième Covid et qui apparaît à l'écran, le chat de Sibyl Golak. Je me suis dit, mais c'est génial. Voilà. Donc, il va y avoir un chat, il va y avoir le chat de la sociologue. Et ce chat de la sociologue va sortir le soir, rencontrer des chats qui, eux, sont des victimes collatérales de divorces qui se passent mal et d'héritages qui se passent mal. Les chats victimes collatérales vont pleurer misère. Et le chat de la sociologue va leur expliquer les tenants et les aboutissants. Donc, ça m'a amené par la suite à faire intervenir Le chat d'un notaire, le chat d'une avocate, le chat d'une juge. Enfin, plus exactement, des chats qui tolèrent à leur domicile des humains et humaines qui sont respectivement sociologues, notaires, avocats, etc. Mais qui donc en connaissent un large rayon grâce à ça. Voilà.
Malheureusement, Jeanne, on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Je vous remercie beaucoup, Jeanne Puchol. Je rappelle la référence de votre ouvrage, Le genre du capital, publié chez Delcourt et La Découverte, à lire d'urgence pour prendre connaissance de ces mécanismes créateurs d'inégalités qui nous, sinon nous conditionnent, en tout cas nous travaillent. Merci beaucoup, Jeanne.
Merci.
À suivre sur Radio Anthropocène, les chroniques marginales de l'ALCA.
Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.